La 66e flotte de combat, de renseignement et d'entraînement de la marine iranienne se prépare à mettre le cap sur les eaux internationales. Un engin explosif s'écrase à Dimona sans que le dôme de fer puisse l'intercepter. Et en RDC, au moins 60 personnes ont été tuées en moins de 4 jours dans le territoire de Beni, la plupart à coups de machette ou de hache. C'était le titre en Voici le journal. La 66e flotte de combat, de renseignement et d'entraînement de la marine iranienne se prépare à mettre le cap sur les eaux internationales. Elle est composée du porte-hélicoptère Halg et de la corvette de classe Bayandar. Une cérémonie a eu lieu le jeudi 30 janvier à Bandar Abbas en présence des commandants et du personnel de la zone 1 Emamat. La mission de cette flotte consistera à lever le drapeau de la République islamique d'Iran en haute mer, à assurer la sécurité des lignes maritimes dans le souci des interactions internationales et du développement de la diplomatie dans plusieurs pays le long de la côte de l'océan Indien. La force maritime de la République islamique d'Iran a pour mission de protéger les eaux territoriales, le plateau continental et les zones et les îles exclusives et économiques lui appartenant. Elle se situe au quatrième rang du classement mondial des forces maritimes. Elle comprend des sous-marins, des frégates, des corvettes, des patrouilleurs, des navires auxiliaires et des aéronefs de différentes classes. L'Iran réaffirme que la nouvelle sanction américaine visant le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique est loin d'influencer le progrès des programmes nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran. Ce n'est pas la première fois qu'Ali Akbar Salehi fait l'objet de sanctions unilatérales et illégales, a déclaré le vendredi 31 janvier le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Abbas Mousavi. Il a souligné que la décision des États-Unis de boycotter Ali Akbar Salehi trahissait leur désarroi. Abbas Mousavi a déclaré que l'administration américaine prenait des mesures non professionnelles, absurdes, afin de détourner l'attention de l'opinion publique des questions comme la motion de censure de Donald Trump et l'échec du deal du siècle. Dans la foulée, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que les programmes nucléaires de l'Iran se poursuivraient sans subir de changements, surtout après les sanctions visant M. Salehi. De son côté, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la nouvelle décision du département du Trésor américain témoignait du désespoir de la Maison-Blanche et de sa frustration quant à l'échec de sa campagne de pression maximale contre l'Iran. Jeudi 30 janvier, le Trésor américain a placé le nom d'Ali Akbar Salehi, président de l'OIEA, sur la liste des sanctions, 6 mois après une mesure similaire visant le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Un engin explosif s'écrase à Dimona sans que le dôme de fer puisse l'intercepter. Le deal du siècle ouvrira la boîte de Pandore, prévoyait craintif les analystes israéliens. Pour la première fois depuis plus de 70 ans, Dimona a été pris pour cible. Des ballons chargés d'explosifs ont pris pour cible la centrale nucléaire israélienne de Dimona. Selon plusieurs sources, le ballon a survolé avec succès 70 km et n'a été intercepté ni par le dôme de fer ni par aucun autre système de défense aérienne. L'engin s'est écrasé non loin de la centrale, mettant en péril la sécurité. Le Hamas pourrait nous envoyer la prochaine fois ses missiles, a constaté un employé de Dimona, ajoutant que les frappes aériennes contre Gaza ne feraient qu'attiser les tensions. Par ailleurs, l'aviation israélienne a bombardé le vendredi 31 janvier à Lop des parties du sud de la bande de Gaza. Aucun bilan des dégâts n'a été encore publié. Israël accuse les groupes de la résistance palestinienne d'avoir tiré 3 roquettes en direction du sud de la Palestine occupée. Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé ce jeudi que 3 roquettes avaient été tirées depuis Gaza vers les colonies voisines, dont Sderot. Suite à cette annonce, l'aviation israélienne a bombardé à plusieurs reprises le sud de la bande de Gaza. Alors que le Pentagone a revu encore un os ce vendredi le bilan des blessés de la frappe aux missiles balistiques iraniennes du 8 janvier contre la base Ain al-Assad, l'établissant désormais à 64 GIs, Bagdad a lancé un ultimatum à Washington. L'Irak a exigé que les États-Unis retirent toutes leurs troupes du pays dans un délai de 3 mois. Cet ultimatum est aussi adressé à toutes les troupes étrangères. Le processus de retrait des troupes étrangères sera supervisé par une commission parlementaire, ce qui indique que Bagdad est prêt à prendre les mesures les plus radicales qui soient contre les États-Unis et tous les autres États qui refusent de se conformer à cette exigence parfaitement légale. Le pacte de sécurité USA-Irak ayant été rompu après l'assassinat du général Rassem Soleimani, d'Abu Mahdi al-Mohandes et de leurs compagnons le 3 janvier dernier. Jeudi, les combattants des unités de mobilisation populaire d'Irak à Ejt al-Shaabi ont renforcé leur présence sur des routes importantes aux frontières irako-syriennes pour repousser toute tentative d'infiltration des résidus du groupe terroriste Daesh. Les Ejt al-Shaabi repoussent régulièrement les tentatives d'infiltration et les agressions des résidus de Daesh et insistent à leurs attaques malgré les conditions météorologiques rigoureuses, a précisé le communiqué. Les États-Unis s'opposent à la présence des Ejt al-Shaabi sur les frontières irako-syriennes, estimant que ce déploiement réduit la marge de manœuvre des militaires américains, En fait, des éléments de Daesh infiltrent le territoire irakien, en particulier la province d'Al-Anbar à travers les postes frontaliers, et les États-Unis se servent de ces terroristes comme un levier de pression contre Bagdad. Les troupes de l'armée syrienne ont libéré 2 autres localités dans le sud-est de la province d'Idlib. Le jeudi 30 janvier, les forces de l'armée syrienne ont repris aux terroristes du front al-Nusra le contrôle de la colline d'Al-Suattar et du village d'Al-Hadamiyya dans l'ouest d'Abu Zuhur, au sud-est de la province d'Idlib. L'armée syrienne a réussi à s'installer non loin de Saraïb, un important fief des terroristes du front al-Nusra. Jeudi soir, les troupes syriennes ont libéré Jabas, Al-Hadamiyya et Ramana, ce qui leur permet d'atteindre plus facilement la ville de Saraïb. D'autre part, les forces syriennes ont découvert et saisi des tunnels et des fiefs appartenant aux terroristes lors d'une opération destinée à sécuriser la ville d'Al-Amediya au sud de Marat al-Numan. À noter que l'armée syrienne a reconquis la ville très stratégique de Marat al-Numan, le plus grand bastion du front al-Nusra à Idlib. Les unités de l'armée se sont occupées des mines et des bombes que les terroristes y avaient déposées et ont également transféré des groupes de civils en lieu sûr. À Marat al-Numan, des habitants ont confié à l'agence de presse officielle syrienne Sana que les terroristes leur avaient coupé l'eau et privé des denrées alimentaires afin de les obliger de coopérer avec eux. Or, les habitants ont refusé de se rallier aux terroristes et ont attendu que l'armée syrienne arrive et libère la ville. Pendant les derniers jours, l'armée syrienne a libéré Marat al-Numan et 28 autres villes et villages du sud d'Idlib. Cette opération de grande envergure a été lancée en réaction aux agissements des terroristes qui ne cessaient d'attaquer, soit avec des roquettes, soit avec des voitures piégées, les zones civiles ou bien les positions de l'armée syrienne. Quittons la région et allons directement en France où la croissance a ralenti plus que prévu en 2019, les grèves pesant lourdement sur la fin d'année. La croissance économique de la France déçoit lourdement. Elle a finalement ralenti un peu plus qu'anticipé à 1,2% en 2019 selon une première estimation publiée par INSEE. Surtout, la fin de l'année a été particulièrement difficile avec une activité qui recule sur le dernier trimestre dans le contexte des grèves contre la réforme des retraites. Alors que l'INSEE anticipait une croissance de 1,3% sur l'année et de 0,3% au quatrième trimestre, le PIB s'est affiché en recul de 0,1% sur les 3 derniers mois de l'année, pénalisé par la baisse de la production, notamment industrielle, le ralentissement de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises. Alors que la Banque de France estimait que le mouvement de protestation contre la réforme des retraites ne coûterait au plus que 0,1 point de croissance sur la fin de l'année, les chiffres publiés vendredi montrent qu'il a bien plus fortement handicapé l'activité. Et une page de l'actualité africaine pour fermer le journal. En RDC, un nouveau massacre attribué au présumé ADF a fait jeudi, en pleine journée, une 20aine de morts attribuées dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Des violences survenues après un autre massacre dans le même secteur qui a fait une quarantaine de morts dans la nuit de mardi à mercredi. De quoi susciter la colère de la population qui se dit abandonnée. Au moins 60 personnes ont été tuées en moins de 4 jours dans le territoire de Beni, la plupart à coups de machette ou de hache, selon la société civile locale. Les habitants de la région se disent terrorisés par cette nouvelle flambée qui est attribuée aux présumés rebelles ougandais des ADF après une courte accalmie. L'administration locale a confirmé ces deux attaques qui ont ciblé les localités de Mamov et Mandoumbi jeudi en plein milieu d'après-midi. Elle parle d'un bilan provisoire d'au moins 16 morts. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Palestine enterrée, la prochaine cible. C'est dont nous vous parlerons dans ce commentaire politique. Selon l'éditorial du journal Raya Al-Yawm, signé par le célèbre analyste du monde arabe, Abdelbari Atwan, les clauses du deal du siècle ne visent qu'à faire plier le peuple et les dirigeants palestiniens face aux exigences israéliennes. Atwan a comparé le deal du siècle à une nouvelle version du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Les habitants palestiniens seront intensément installés dans certaines zones, y compris les zones A et B et la bande de Gaza. Leurs ressources en eau et leur sécurité seront à la merci du régime sioniste. Et les Palestiniens n'auront d'autre fonction que de servir le régime occupant Rhodes. Ce projet entend reconstruire l'imaginaire temple Haïkal Solomon à la place de la mosquée Al-Aqsa. Rhodes sera présentée comme la capitale d'Israël et les Palestiniens devront la reconnaître en tant que telle. En outre, le droit au retour sera aboli et les colonies sionistes et la vallée du Jourdain devront être reconnues comme des territoires appartenant à Israël. Enfin, l'autorité palestinienne doit jouer un rôle plus important dans la lutte contre la résistance et le désarmement de la bande de Gaza. Atwan met par ailleurs l'accent sur les actions pratiques de la part de tous les groupes palestiniens contre l'occupation, affirmant que les nouvelles priorités promises par Mahmoud Abbas ne doivent pas être basées sur la séparation des différents groupes et la poursuite des négociations, mais surtout sur le renforcement et l'élargissement de la résistance, la fin des coordinations sécuritaires avec le régime sioniste et l'annulation des accords d'Oslo. Le peuple palestinien devra décider seul de son avenir, a-t-il martelé, ajoutant que, le compris ayant échoué, l'autorité autonome n'aurait plus de raison d'être. Atwan indique aussi que le deal du siècle échouera, tout comme l'occupation israélienne avait échoué dans la bande de Gaza et dans le sud du Liban. Et cet échec ne sera rendu possible que du fait des actes de résistance sous toutes leurs formes. Le peuple palestinien se trouve face à un dilemme dangereux. Il doit renoncer à ses terres et à son honneur en acceptant le peu de vin de 50 milliards de dollars que Trump a trait chez ses vaches à lait arabes ou encore continuer, tout comme les autres peuples, à faire face à ce complot. En somme, gagner et résister à cette conspiration comme les autres nations. Bien sûr, tout le droit international rédigé par plus de 170 États membres de l'ONU considère la résistance comme le droit du peuple palestinien. L'annexion de la Jordanie, de l'Irak, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite fait partie des prochaines étapes du plan du régime sioniste et des États-Unis, souligne Abdelbari Atwan, qui appelle alors tous les Arabes et tous les musulmans à s'unir face à ce danger. Le deal du siècle ne sera pas mis en œuvre car l'axe de la résistance est présent dans la région et que le peuple palestinien est prêt à se sacrifier, a conclu l'analyste Abdelbari Atwan.